veille, on vit finalement se livrer une rixe incroyable et confuse, chaotique. Surian, montrant les premiers signes de colère, et même d'impatience, s'escrimait avec une ardeur grandissante, acculant Robin contre le mur. Suriel, encore sonné par le coup qu'il avait reçu sur le crâne, hésitait entre deux proies, la jeune fille ou l'apothicaire. Andreas, fouillant la place du regard, cherchait un moyen ingénieux de les extraire de là. Alice, tenant toujours sa statuette à deux mains, agitait frénétiquement celle-ci par devant, comme on fait pour garder en respect un animal sauvage. Quant à Robin, ce brave Robin, coincé contre la façade du palais, il fut le premier à recevoir un coup de lame. Car le troisième assaut que lui porta son adversaire l'atteignit à la cuisse, lui arrachant un joli morceau de chair. Le jeune homme poussa aussitôt un cri de douleur qui glaça le sang de ses deux compagnons. Lors, la jeune fille jeta sa statuette au visage de Surian, mais le rata, pendant que l'apothicaire se précipitait sur le côté et tirait Robin par le bras pour le sortir de ce mauvais pas. Mais alors, les deux Malachim revinrent sur lui de concert, se ressemblant si parfaitement dans leur figure comme dans leurs gestes. En cet instant, Andreas, n'ayant toujours aucune arme pour se défendre, et étant déjà arrivé au bout de ses forces, acquit la certitude qu'il ne pourrait s'en tirer vivant. A donc, dans un élan de désespoir, il préféra sauver les deux jeunes adolescents. Le regard sombre, il partit en sens inverse pour attirer les Malachim à l'écart, s'exposant davantage à leurs lames, mais protégeant du même coup ses compagnons. Les deux cavaliers aussitôt se jetèrent sur lui comme des fauves, et l'apothicaire crut voir venir sa fin. Il se produisit alors une chose extraordinaire. Un miracle, diront certains. Une belle coïncidence, diront les autres. Mais le lecteur ne saurait mettre en doute l'étonnante réalité de ce qu'il advint. Car de fait, ce fut l'un de ces événements singuliers que seule la vraie vie peut offrir. N'obéissant ce faisant qu'à une unique loi, celle de la concomitance des destins que les hommes se choisissent. Ainsi, au moment même où les Malachim soulevaient leur épée pour en finir avec Andreas, une troupe de 6 soldats surgit du coin de la cathédrale, et à leur tête un homme au large nez et aux cheveux frisés, vêtu comme un prince, et qui s'écria « Sauvez-le !» Et c'était Charles de Valois, frère du roi de France, qui venait d'entrer en ville après son long périple. Les soldats, la main au pommeau, se jetèrent par devant. Le combat dès lors prit une toute autre tournure. Profitant de la surprise produite par ce deus ex machina digne des plus grandes tragédies grecques, Andreas se retira de la portée de ses adversaires, lesquels durent faire face d'un seul coup à 6 assaillants qui tirèrent 6 épées. On eût pu penser qu'à 2 contre 6, les Malachim n'eussent point résisté longtemps. Mais ils ferraillaient si bien que pour eux la bataille n'était point perdue d'avance. Les lames se croisèrent dans un grand fracas métallique. Aux coups répondirent d'autres coups plus sournois. Ici on se fendait. Ici on attaquait au fer. Là, on donnait un coup d'arrêt pour contrer une banderole. Plus loin, on coupait, et là, on chassait les mouches. Qui y allait de sa botte, et qui de sa feinte? Et quand l'on croyait l'une des parties vaincue, soudain, elle reprenait vigueur. Le premier à tomber fut un homme du comte, touché mortellement à la poitrine. Puis, un second, à la gorge. Et alors le sang commença à couler abondamment entre les pierres de la grande place. Et ce fut une hécatombe. Prenant la mesure du combat et voyant 2 de ses hommes à terre, le capitaine Délésir redoubla de colère. Et avalant la distance qui le séparait de Surian, en quelques coups d'estocade, il parvint à percer la défense de celui-ci. Comme il frappait de plus en plus fort et de plus en plus juste, la dernière passe fut la bonne, et atteignit le cavalier noir en plein cœur, sous le regard horrifié de son frère. Surian, comme pétrifié par Méduse, lâcha son épée et s'écroula lentement vers le sol, ses 2 mains fermées sur sa plaie béante, ses yeux écarquillés comme 2 étoiles qui, soudain, s'éteignirent sur son grand visage blanc. Alors ce fut au tour de Suriel de perdre ce qui lui restait de sang-froid. Et ce grand guerrier, avec une rage inhumaine et féroce, poussant, pourfendant,